les écrans philosophiques, un cycle conçu et organisé par la Maison Populaire, le Collège International de Philosophie et de Cinéma Le Méliès, en collaboration avec l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Enregistrement de la séance du mercredi 15 décembre 2010, à l'issue de la projection du film « Bienvenue Mr. Chance » de Al Hajby, États-Unis 1979, présenté par Mathieu Pott-Bonneville, philosophe, enseignant, président de l'Assemblée collégiale du Collège international de philosophie, directeur de programme, membre de la revue Vacarme. Présentation suivie d'une discussion avec la salle.
Bien, bonsoir. Peut-être quelques petits mots sur le film. Quelques petits mots factuels sur le film. Pour dire d'abord que c'est un film très méconnu en France et assez connu aux États-Unis. C'est donc un film de 1979, ce qui nous vaut une galerie de costumes d'époque chez les jeunes gens du FBI, qui est absolument délicieuse. Et c'est un film qui a une double actualité récente, puisque d'une part, c'est l'un des films que le réalisateur Judd Apatow, qui est un des références majeures de la comédie américaine aujourd'hui, cite comme l'un de ses films l'un de ses films de chevet, je ne sais pas si la catégorie existe, mais en tout cas d'un des films qu'il a beaucoup vu et qui l'ont beaucoup inspiré, en particulier dans cette manière de se tenir en équilibre entre la comédie et autre chose que la comédie, dans une sorte d'émotion assez indécise. Et puis c'est un film qui a été cité par un commentateur radio l'année dernière, qui s'appelle Paul Savage, qui est une des grandes voix néoconservatrices américaines, et qui, dans une diatribe, quelqu'un qui est très écouté, et qui, dans une diatribe contre Barack Obama, et au moment où Obama a reçu le prix Nobel de la paix, a dit qu'au fond, Obama lui faisait penser au type de ce film. Comment s'appelait ce film ? Ah oui, Being There. Et qu'au fond, Obama avait exactement le rôle du passant. Donc, ceci pour dire que c'est un film qui a discrètement, mais assez réellement marqué la culture cinématographique et politique américaine. Alors, moi, ce qui m'intéressait, la raison pour laquelle j'ai pensé vous proposer ce film, c'est que c'est un film sur l'interprétation. C'est un film qui pose un problème d'interprétation, en deux sens du terme. D'une part, parce qu'il ne cesse, au fond, j'y viendrai tout à l'heure, de traiter d'interprétation et d'erreurs d'interprétation ou de surinterprétation, mais qui l'entraîne d'une étrange manière et d'une manière qui laisse le spectateur un petit peu décontenancé. Je veux dire par là que bon, c'est un film qui pose des problèmes d'interprétation en ce que il fonctionne d'abord sur un ressort comique extrêmement classique, extrêmement attendu, qui est le ressort du quiproquo, qui donne lieu à énormément de comédies où un personnage dit une chose et cette chose est reçue comme autre chose que ce qu'elle est. Le spectateur est finalement le seul à jouir de la clé de cette double entente. Mais le film a une très curieuse manière de jouer le quiproquo, et je dirais d'abord dans son écriture, à la fois dans l'écriture des dialogues et dans le tempo du film. C'est-à-dire que là où les films à quiproquo fonctionnent à la fois sur la virtuosité des dialogues, où chaque mot est à double entente, et puis sur une forme d'accélération, à la fois d'accélération et d'inquiétude du spectateur. Le spectateur est en permanence en train de se demander si ce coup-ci il va être découvert ou pas. Le film joue ici absolument l'inverse. Les dialogues sont écrits de telle manière qu'on ne comprend vraiment pas comment les interlocuteurs de Chance peuvent entendre ce qu'ils veulent dans ce qu'il dit. Enfin, il n'y a pas d'accroche véritablement de double sens qui permettrait à un discours de se raccrocher sur l'autre. Le film est aussi très curieusement ralenti, y compris, j'y pensais en le revoyant, par exemple, dans la manière, vous avez peut-être remarqué, lorsque Chance passe à la télévision, en fait, nous assistons à l'interview télévisée avec lui en différé. avec lui en différé, de telle sorte que cette sorte d'inquiétude ou de stress du spectateur se demandant si cette fois-ci ça va déraper est entièrement neutralisée par le dispositif, puisque au fond tout cela a déjà eu lieu. Bon. De sorte que il me semble que ce traitement très particulier de la question de la figure du quiproquo entraîne une grande ambiguïté dans la position du spectateur. D'un côté, le spectateur est vraiment placé en surplomb des personnages et peut véritablement, c'est la part critique du film ou sa part démystificatrice, disons, peut véritablement contempler une machine discursive, une machine sociale qui tourne à vide, qui tourne entièrement à vide, qui n'a besoin de rien pour continuer à produire des interprétations, justement. Des interprétations politiques, des interprétations amoureuses, des interprétations de toutes sortes. Bon. Donc surplomb, recul, critique. Et simultanément, et contradictoirement, le film place le spectateur dans une certaine perplexité, parce que, à supposer que nous soyons tentés à notre tour de produire une sorte d'interprétation de ce film, de nous dire que par exemple c'est une critique au vitriol de la société médiatique américaine, ou que c'est une allégorie de je ne sais quoi, eh bien nous nous retrouverions placés exactement dans la position des interlocuteurs de James. De sorte que le film fonctionne dans, enfin, place le spectateur dans cette position très étrange d'interpréter et de ne pas pouvoir interpréter véritablement le film. C'est-à-dire de se retrouver vis-à-vis de cette très curieuse question, de cette très curieuse perplexité, de savoir s'il est possible, comme le fait le personnage, de se tenir simplement là, d'être là, c'est-à-dire de ne pas donner prise ou accroche à quelque chose comme du sens. Pour mémoire, mais c'est une incise, en fait, ce film, à mon sens, est le développement, sur 2h10, d'une seule scène, qui est une scène d'un autre film, que vous avez peut-être vu, qui s'appelle The Party, avec Peter Sellers, qui est un film, alors là, pour le coup, extraordinairement comique et affolé de bout en bout, où Peter Sellers, même acteur, joue un acteur indien, qu'il est grimé en hindou, avec un accent hindou parfaitement improbable. Et il scène des catastrophes dans une fête où il est invité. À un moment, il se retrouve à consoler la jeune fille de la maison, je crois, qui pleure dans la cuisine. Et il s'approche d'elle et lui dit We have a saying in India. Nous avons un proverbe en Inde. Elle lui dit yes. Il lui dit yes. Et c'est absolument tout. Et la réplique fonctionne comme cette sorte d'aphorisme qui tombe à plat. La pique, exactement comme le font les répliques dans ce film, et je pense vraiment que c'est l'un des plus grands films de Peter Sellers. Alors, avant de revenir à la question même de l'interprétation, puisque c'est le fil conducteur que je voulais vous proposer, juste noter que l'ambiguïté dont je parlais, l'ambiguïté de ce film qui nous met en position critique et puis qui nous déconcerte ou qui désamorce la position critique, elle me paraît se déployer sur deux plans, au moins. Un premier plan serait le plan politique, puisqu'au fond, on a un film, me semble-t-il, qui rejoue ou qui se situe dans une tradition très marquée dans le cinéma américain, qui est la tradition de ces grands films politiques, et on pense assez immédiatement à Capra, c'est-à-dire à Mr. Smith au Sénat ou à l'invraisemblable Mr. Deeds, ou ces films où l'homme de la rue se retrouve avec James, tous ces films avec James Stewart, où James Stewart joue l'homme où comment s'appelle non, Mr. Deeds, c'est ce très, très grand acteur, c'est pas Cary Grant, c'est l'homme du train sifflera trois fois, Gary Cooper. Voilà, de grands personnages qui sont des espèces de grandes silhouettes très fortes, comme ça, très terrestres du cinéma américain, se retrouvent pris dans les rouets, les rouages de la politique américaine, de Washington, du Capitole, et au fond font entendre la voix singulière de l'homme de la rue. et nous donne à voir le décalage entre l'homme de la rue et puis les jeux politiques. Donc le film se situe assez clairement dans cette filiation-là, sauf que, et là est l'ambiguïté, d'une part, les gens qui l'entourent sont, à de très rares exceptions près, la seule exception au fond, c'est la tournée, c'est le type qui vient le virer de chez lui. Ce sont de braves gens. On n'a pas du tout affaire à des personnages roués ou à des personnages qui sont dans une forme de manipulation ou de machiavélisme. À la fin, c'est vrai, les hommes qui portent le cercueil sont dans ce jeu-là, mais les proches de Chance ne sont pas du tout dans ce fonctionnement-là. Donc, si on a la description d'un système politique, c'est un système qui échappe entièrement à la mauvaise volonté de ceux qui le peuplent, on va dire. Donc ça, et puis en même temps, très étrangement, l'homme de la rue n'est jamais allé dans la rue. Dans ce... On n'a pas du tout affaire à quelqu'un qui serait dépositaire d'une sorte de conscience sociale et démocratique américaine, parce qu'il serait un membre de la community, ce mot que Round prononce, hein, good for my family and my community. Là, il n'est pas du tout membre de la communauté, c'est un pur outcast, il vient absolument d'ailleurs, il n'est jamais allé dans la rue, et quand il sort dans la rue, vous aurez peut-être remarqué que la musique, c'est le Zarathustra de Strauss remixé en jazz rock, c'est-à-dire la musique de 2001, l'Odyssée de l'espace. Vraiment, il sort dans l'espace vide du monde extérieur et il n'a rien à voir avec la rue. Donc, de sorte que toute la mythologie américaine d'un ressourcement de la démocratie par l'individu porteur du bon sens se trouve entièrement déplacée ou flottante, d'une certaine façon. Premier axe de l'ambiguïté. Un deuxième axe de cette même ambiguïté, c'est le rapport à la télévision. C'est le rapport à la télévision. Le film a été reçu quand il est sorti en salle aux États-Unis. Il a été reçu pour l'essentiel comme une charge extrêmement violente contre la télévision américaine, contre l'omniprésence de la télévision sur les écrans. Et c'est vrai que il y a dans ce film une forme de critique de la télévision, d'abord comme fouillis, la traduction française, je ne me souviens plus quelle est la réplique de Shirley MacLaine, mais comme brouillage permanent, comme bruit de fond absolument permanent, et puis comme machine à recycler aussi tout discours, toute figure du discours, y compris les figures de la sincérité, de la bonne volonté ou de l'optimisme, et d'en faire des gimmicks, d'en faire des slogans. Donc on a, sur l'un de ces axes, ou sur l'un de ces versants, le film est vraiment une machine à montrer que la télévision a commencé avant et finira après, finalement ne s'arrête jamais, est capable de se réapproprier tous les discours qui passent à sa portée pour en faire autre chose que du réel. Chance est passionné à la fois par le jardinage et par la télévision, mais il y a une sorte de devenir télévision du jardinage. Enfin, on voit bien qu'il pourrait animer une émission de jardinage aussi bien. Tout ça pourrait passer sur l'écran. Et en même temps, il suffit de retourner la feuille pour que ce soit exactement l'inverse. Puisque la télévision dans ce film joue le rôle de quelque chose qui n'a aucun sens, mais qui n'a aucun sens, exactement comme le jardinage n'a aucun sens. C'est-à-dire, il n'est plus question du sens, il est simplement question d'être là, d'être présent, c'est-à-dire aussi bien d'être absolument absent, puisque Chance est là, mais il est où? Il est devant la télévision, c'est-à-dire aussi bien il n'est pas là. Et les images les plus amusantes ou les plus étranges aussi du film sont ces images de yoga, ou ces images très curieuse danse tribale sur laquelle Chance zappe dans la voiture quand il en a marre de s'écouter à la télé. Il y a un type qui se frappe le torse et qui pousse des cris tout à fait effrayants. Et c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que c'est un devenir jardinage de la télévision. C'est-à-dire qu'au fond, la télévision est à la fois le pôle de la plus grande déréalisation, où tout se déréalise, tout peut être absolument recyclé, remâché, et en même temps le pôle d'une sorte de plus grande réalité, en tout cas de plus grande présence, d'une espèce d'état de l'être qui est en dessous de toute interprétation, précisément, de toute signification. Donc, il des ambiguïtés extrêmement fortes dans ce film, et si je voulais les résumer, je dirais que c'est un film qui, au contraire des films dont je parlais tout à l'heure, des films comme le film de Capra, comme les films de Capra, ne pose pas du tout la question du bon sens, même s'il a l'air de le faire. C'est-à-dire que il commence par, il raconte à nouveau cette histoire du bon sens populaire contre la sophistication ou la manipulation des discours publics. Mais en fait, bien plutôt qu'un film sur le bon sens, c'est un film qui passe son temps à circuler entre le non-sens et le trop de sens. C'est-à-dire qu'on n'a pas un socle de. Vous voyez, je suis en train de faire exactement comme le personnage. On n'a pas un socle de signification stable sur lequel on pourrait se reposer. On est toujours en permanence pris entre l'absurde ou le burlesque. Il y a une vraie voix burlesque du film. Et puis, la surinterprétation. La surinterprétation, ce qui pose du coup, philosophiquement, une série de questions plutôt vraiment intéressantes, du genre, est-ce qu'il est seulement possible de se tenir en deçà du sens, c'est-à-dire de ne pas aller vers l'interprétation, de ne pas entrer dans le mouvement de l'interprétation, de rester avec Chance? Mais on ne peut pas rester avec Chance. Il est fondamentalement tout seul, et sauf à ce moment très curieux où il a les larmes aux yeux à la fin, où quelque chose perce, la plupart du temps, on n'est pas avec lui, on ne peut pas être avec lui, on ne peut pas se tenir là, justement, being there. Donc, est-ce qu'il est possible de ne pas entrer dans le mouvement du sens? Est-ce que, ce serait une autre question, est-ce que ça n'est pas le non-sens qui donne le mouvement du sens, qui permet le mouvement même du sens, parce qu'on sent bien qu'au fond, Chance fonctionne exactement dans ce film comme la case vide dans les jeux de pousse-pousse. Vous savez, il s'agit de reconstituer une image, mais pour reconstituer l'image, pour pousser les petites pièces, il faut qu'il y ait une case vide. Et Chance joue exactement ce rôle de la case vide, c'est-à-dire qu'il est ce qui, par son opacité totale, par son illisibilité totale, il ne sait ni lire ni écrire, met en mouvement le sens. Donc, au fond, est-ce que le sens n'est pas produit par cette circulation de l'absurde qui passe de place en place et dont personne, au fond, ne sait que faire? On se le repasse un petit peu comme ça. Et du coup, une troisième question, je multiplie un peu les questions, est-ce que ça ne veut pas dire que tout discours sensé est, au fond, très proche du délire? Au fond, très proche du délire parce que. Les personnages du film et les discours successifs que les personnages adoptent, qui sont extrêmement rationnels, enfin qui ont chacun, disons, leur niveau et leur standard de rationalité. On voit bien qu'il y a des règles du langage amoureux et de l'échange amoureux, il y a des règles de l'échange politique, il y a des règles de l'échange médiatique, tout ça. Mais est-ce que ça fait sens? Est-ce que, à partir du moment où c'est pris par ce mouvement du non-sens, est-ce que ça n'est pas en définitive, un non-sens. Voilà, donc moi, quand j'ai réfléchi à ce film, je me suis posé ces questions-là, et à ce moment-là, je me suis dit que c'est difficile d'avancer un plus loin que ça dans le film. Du coup, j'ai repensé à autre chose que je peux vous soumettre, qui est un texte d'un auteur américain contemporain, critique littéraire et philosophe très, très important aux États-Unis, qui s'appelle Stanley Fish. L'ouvrage s'appelle Quand lire, c'est faire. C'est un décalque d'un fameux livre qui s'appelle Quand dire, c'est faire. Et c'est un ouvrage sur l'interprétation, justement. Où Fish raconte une expérience qui m'a fait très fort penser à ce film. La manière dont il analyse cette expérience me semble, du coup, assez éclairante pour réfléchir sur ce film. L'expérience que raconte Fish, c'est la suivante. Il est professeur et il avait successivement deux cours dans la même matinée. Il le dit, un premier cours, je retrouve la page. Le texte s'appelle Comment reconnaître un poème quand on en voit un. Et dans le le premier cours, Fisch avait un cours d'étudiants qui s'intéressaient au rapport entre linguistique et critique littéraire. Et puis le deuxième cours de la matinée à 11h, c'était un cours avec un groupe dont, qui se cantonnait, un groupe d'étudiants qui étudiait la poésie religieuse anglaise du XVIIe siècle. Et Fisch fait une chose assez amusante. Il laisse au tableau la bibliographie du premier cours. Je cite Jacobs, Rosenbaum, Levin, Thorne, Hayes, Oman. Il l'encadre, il met juste un trait à la craie autour. Et puis, lorsque les étudiants arrivent après, il leur dit que c'est un poème. Donc, il faut que nous essayions de l'analyser. Et les étudiants commencent à analyser le poème. Ça vaut le coup de vous lire juste quelques passages de leur analyse. Le premier vers du poème reçut la plus grande attention. Jacobs fut expliqué comme une référence à l'échelle de Jacob, représentation allégorique traditionnelle de l'ascension chrétienne vers le ciel. Dans ce poème, cependant, en tout cas, c'est ce que m'ont dit mes étudiants, le moyen d'attention n'était pas une échelle, mais un arbuste, un rosier ou Rosenbaum. Il fut considéré comme une référence évidente à la Vierge Marie, souvent considérée comme une rose sans épines. Arrivé là, le poème leur a semblé fonctionner à la façon bien connue d'une énigme iconographique, etc., etc., etc. Et toute l'analyse du poème se déplie à partir de là. Ce qui a évidemment beaucoup abusé, beaucoup intéressé Stanley Fisch. Stanley Fisch qui en tire une conclusion radicale. Il ne se contente pas de dire que les étudiants, à l'instar des politiciens ou des personnages qui peuplent le film, interprète n'importe comment parce qu'ils n'ont pas de bon sens. Il va jusqu'à dire qu'il n'y a pas de sens littéral. Qu'il n'y a pas de sens littéral et qu'une liste de mots au tableau, selon la manière dont elle va être interrogée, va pouvoir produire des interprétations extrêmement diverses, extrêmement cohérentes, consistantes, chacune dans leur ordre, qui tiennent debout. Exactement comme c'est une des beautés de ce film, je trouve. Il n'y a pas de moment de doute. Il n'y a pas de moment où on a très très peur pour le personnage, parce qu'on se dit qu'il faut se rendre compte de quelque chose. Ça tient debout tout seul, ça tient debout en bout absolument. Alors, je citais cette référence à Fisch parce qu'il propose un certain nombre de pistes d'analyse quand même de ce phénomène-là. C'est-à-dire comment est-ce que nous en venons à interpréter, à entrer dans des interprétations enfin, très complexes, très étranges, de choses qui nous sont dites. Comment est-ce que font les personnages du film ? Fisch dit, j'interprète un peu, mais il faut tenir compte de plusieurs choses. D'abord, quand est-ce qu'on a interprété une phrase ? Logiquement, on a à interpréter une phrase quand son sens littéral n'est pas intelligible ou n'est pas recevable. Par exemple, dans le film, il est irrecevable que un jardinier se met à parler de jardinage au président des États-Unis. Donc, ce sens étant irrecevable, il faut trouver un autre sens, donc un sens métaphorique, et le jardin va devenir une métaphore, une image de l'économie américaine. Bon. Mais le problème, c'est quand est-ce qu'on décide qu'un énoncé est irrecevable, quand est-ce qu'on décide qu'une phrase, ou même une absence de phrase, et donne prise, peut donner prise à l'interprétation. Et là, c'est extrêmement flottant, puisqu'au fond, très rapidement, on se rend compte que tout est interprétable. Tout est interprétable, y compris, par exemple, les silences. Lorsque Chance raccroche le téléphone, lorsqu'il arrête de parler, il n'arrête pas pour autant l'interprétation, puisque le fait qu'il ait raccroché le téléphone veut bien dire quelque chose. Donc, un premier problème, première explication de ce phénomène viendrait du fait que nous sommes toujours confrontés à la question de savoir si les énoncés doivent s'entendre littéralement ou par image, s'il faut chercher plus loin, mais nous sommes très incertains vis-à-vis des critères qui nous permettraient de décider si cet énoncé veut dire ce qu'il veut dire ou s'il veut dire autre chose que ce qu'il veut dire. Donc ça fait une première explication pour se dire que nos personnages ne sont pas si fous que ça. Une deuxième chose que dit Fisch, c'est qu'au fond, l'interprétation dépend beaucoup moins de la phrase interprétée, chose qu'on a interprétée, que de la posture même de l'interprète. La posture même de l'interprète, c'est-à-dire celui qui va recevoir la phrase et qui va chercher un sens autre. Et qui va chercher un sens autre. Là, je crois que l'une des belles leçons du film, et je crois l'une des significations de son titre, qui est vraiment, je ne sais pas pourquoi ils ont traduit ça, « Bienvenue Mr. Chance » en français, c'est très étrange parce que le titre américain est vraiment splendide, quoi, « Being there ». L'une des leçons, j'ai presque envie de dire anthropologique du film, qui concerne l'humanité en général, dont on a quelques spécimens, c'est que, comme dirait Montaigne, nous pensons toujours ailleurs. Nous pensons toujours ailleurs, c'est-à-dire nous sommes toujours dans un mouvement qui nous fait nous porter au-delà de ce qui est là, immédiatement devant nous. Il y a deux grandes figures, je trouve, dans le film, de se penser ailleurs, de ne pas arriver à s'en tenir à ce qui est là, qui sont d'une part le pouvoir, d'autre part le désir. C'est-à-dire qu'au fond, les personnages du président des États-Unis, qui, d'ailleurs, par ailleurs, est en panne de désir, c'est une très curieuse circulation là à cet égard, ces scènes sont très étranges, très incongrues, enfin, on ne comprend pas totalement ce qu'elles font là, on a envie d'interpréter. Mais le président des États-Unis d'un côté et Shirley MacLaine de l'autre côté sont dans des mouvements qui sont toujours des mouvements d'anticipation, c'est-à-dire au fond toujours des mouvements de débordement de ce qui est en train de se passer effectivement devant leur nez ou des choses qui leur sont dites au moment où elles leur sont dites. Donc je crois que l'une des leçons du film, c'est cela, c'est que si nous interprétons, c'est que au fond, nous sommes déjà un pas au-delà de ce vis-à-vis de quoi nous sommes, mais ce pas au-delà, il est très ambigu. Il est très ambigu parce que d'un côté, eh bien, ça veut dire que nous ne sommes jamais là où nous sommes, nous ne sommes jamais à ce que nous faisons, et simultanément, c'est aussi, ça veut aussi dire que ce pas au-delà, c'est la condition même du désir, c'est la condition même d'une histoire, ou c'est même la condition du rapport éthique presque. Le très belle scène à la fin où le médecin renonce finalement à expliquer quoi que ce soit, il laisse aller une fiction qui est devenue vraie d'avoir été en quelque sorte attestée par les dernières volontés d'un mourant, c'est-à-dire par la tentative pour le mourant de se porter au-delà de lui-même, de se porter au-delà de sa fin présente. Donc, ça, ce serait une deuxième hypothèse possible, si nous interprétons, c'est que nous cherchons au-delà, nous cherchons de l'au-delà, nous déplaçons toujours vis-à-vis de ce que nous avons face à nous. Une troisième chose, j'en ai quatre, hein, au bout de quatre, je vous laisse tranquille. Une troisième chose qui me paraît intéressante dans les hypothèses de Fish, chose qui remarque, concernerait non plus l'objet ou le sujet de l'interprétation, mais le mouvement d'interprétation. Le mouvement d'interprétation, c'est, d'un côté, c'est un parfait délire. C'est-à-dire que, on voit bien dans le film, l'inventivité que tous les personnages déploient autour de Chance pour trouver du sens à ce qu'il est en train de raconter. Il y a vraiment un exercice d'imagination permanent pour reconstituer quelque chose comme du sens. Mais cette invention n'est possible que parce qu'en même temps, tous supposent qu'il y a du sens à trouver. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un exercice de pure création ou de pure imagination, on est dans un délire qui n'est possible, cette imagination interprétative, elle n'est possible que sous la supposition d'un sens déjà là. Il doit bien y avoir quelque chose à comprendre là-dedans. Donc on est dans un mouvement très curieux où on part toujours devant au nom de quelque chose qui serait déjà là, qui serait déjà à retrouver. C'est ce qu'on appelle en philosophie le principe de charité herméneutique. C'est-à-dire qu'on fait charité, du point de vue de l'interprétation, on fait charité à la personne de vouloir dire quelque chose. Et si ça ne veut rien dire, c'est qu'il doit y avoir autre chose à comprendre. C'est très important parce que c'est une condition. Alors ce qui est intéressant dans le film, je trouve, et là, c'est l'un de ces aspects critiques les plus intéressants, c'est que cette charité interprétative, c'est à la fois une condition de la communication, c'est pas possible de se parler si on ne suppose pas que l'autre a quelque chose à dire ou qu'il est en train de dire quelque chose de sensé, et c'est en même temps une restriction de la communication. Parce que on suppose que Chance a quelque chose à dire, que ce qu'il dit a du sens, parce qu'on le suppose businessman, parce qu'on le suppose riche, parce qu'on le suppose finalement autorisé, hein, du point de vue à produire des énoncés sensés. À mon sens, la scène la plus forte du film, et qui est totalement en décalage avec tout le reste, c'est la scène où la nourrice, où la servante noire dans l'hospice écoute Chance à la télévision et dit « It's a white man's world ». C'est vraiment un monde de blanc. C'est un monde de blanc parce que quand on est blanc, au fond, on a les prérequis pour que les autres supposent que vous êtes en train de dire quelque chose. Et on sent bien là, et le film change totalement de ton à ce moment-là, ça dure vraiment, je sais pas, 30 ou 40 secondes, mais le film change absolument de ton parce qu'il exhibe cette distribution sociale des positions de sens. C'est-à-dire, au fond, qui dit quelque chose et de qui, au contraire, est-ce que les paroles valent pour rien? Enfin, chez qui est-ce que les paroles valent pour rien? C'est une interprétation absolument commune. Je ne suis en train que de produire de l'interprétation. Ah oui, de celle. Je sais pas, je trouve que. Oui, c'est vrai. C'est vrai, tu fais peut-être crédit d'incarner pour le coup quelque chose comme une réalité sociale ou une vérité sociale. T'as raison. C'est possible. Et je trouve quand même qu'il y a une sorte de dureté de ce personnage. Enfin, un personnage assez étrange, assez raide en même temps. Mais moi, ça renvoie à un problème que j'ai avec ce film, c'est que j'arrive pas à décider si c'est un film politique ou pas. Est-ce que c'est un film politique, en un sens il démontre des rouages du politique, etc. En un autre sens, c'est un film assez anti-politique parce que rien ne change. L'arrivée de Chance ne change rien à rien. On n'a pas quelqu'un qui arrive et qui prend la parole. La parole, elle est déjà toute faite. Il n'y a qu'à s'y mettre, quoi. Du coup, on est un peu à l'inverse là aussi des grands films à la Capra où une voix se lève ou un homme se lève pour prendre la parole. On voit pas très bien quelle parole peut être prise ou peut être prenable dans le film. Alors la toute dernière chose que je voulais dire à propos de en rapprochant le film des travaux de Fish, c'est que Fish développe un concept assez intéressant pour expliquer les interprétations, pour expliquer à la fois comment les interprétations se fabriquent et puis comment l'illusion tient. Au fond, comment des interprétations parfois extrêmement étranges vont être reçues, vont être validées, etc. Il dit, au fond, c'est une affaire de communauté interprétative. C'est-à-dire que l'interprétation, c'est jamais l'interprétation d'une seule personne qui est en face, mais c'est toujours une interprétation qui est validée par d'autres personnes autour. Dans le film, ça se voit assez bien, le personnage de Rand, le vieux milliardaire, valide l'hypothèse de Shirley MacLaine quant à l'amour que Chance lui porte. Et il faut d'une certaine manière qu'elle le valide, non seulement pour que ce soit moralement acceptable, mais pour qu'elle se mette à se dire qu'elle peut être sûre d'y croire. C'est-à-dire que l'interprétation se soutient d'une communauté d'interprètes qu'elle produit en même temps, c'est-à-dire qu'elle ne se contente pas de se loger dans des communautés toutes prêtes, mais fabrique quelque chose comme des communautés nouvelles, comme des nouveaux accords autour des énoncés, et ce que fait Chen, c'est un peu ça aussi. Et je crois, moi, c'est comme ça que je comprendrais la fin du film, qui est quand même une fin totalement évangélique. Bienheureux les pauvres en esprit, et non seulement bienheureux les pauvres en esprit, mais en plus, ils marchent sur l'eau. Et ils marchent sur l'eau, et il me semble qu'en fait, en définitive, on a affaire à un film qui est beaucoup plus religieux que politique, et qui est beaucoup plus religieux parce que, d'une part, il m'a l'air de poser la possibilité pour une figure comme ça de produire une communauté, et une communauté de foi. C'est-à-dire qu'au fond, ces personnages ont foi en chance au sens très simple, où ils croient au-delà de ce qu'il leur donne, absolument au-delà de ce qu'il leur donne. Et Chance, dans cette affaire, c'est l'idiot, exactement comme Nietzsche disait de Jésus que c'était l'idiot, ce qui n'était pas nécessairement un reproche chez Nietzsche, enfin, compte tenu du mal qu'il peut dire des autres, c'était plutôt pas trop grave d'être l'idiot de l'histoire. Mais cette espèce de point de non-sens qui va cristalliser la foi, parce que, qui va faire que la foi prend autour d'elle, autour de ce point. Et puis parce que ça me semble être un film religieux aussi, c'est comme ça que je comprends la fin du film. Alors là, on est vraiment dans l'interprétation, il est temps de discuter. Parce qu'on est à la fois dans le miracle et dans le prophétisme. C'est-à-dire que d'un côté, on est dans le miracle, c'est-à-dire ce qui ne peut absolument pas être interprété, ce qui déroge à toute loi, toute lecture possible, à toute signification possible. Ça arrive, voilà. Ce type marche sur les eaux, ce type ressuscite les morts. Bon, très bien. Et puis en même temps, on est dans la production infinie des évangiles, hein, c'est-à-dire dans la production d'une exégèse, d'un commentaire infini autour de ces choses qui n'ont absolument pas de sens. Et je me demande si Chance, c'est pas cette sorte de figure très synthétique, à la fois du ravi de la crèche, celui qui est tout content, et puis en même temps de celui qui va porter ou faire cristalliser autour de lui toute une série d'exégèses et de commentaires. Voilà, donc ça c'était des pistes d'interprétation, mais j'imagine que vous en avez d'autres, d'autres questions ou des remarques.
Voilà. Bon, je pensais à comment essayer de nous apprendre, pour ce qu'elle n'est pas, si c'est possible, justement, la parole de Chelles, en fait. Est-ce qu'on ne pourrait pas l'apprendre presque littéralement? Qu'est-ce que vous entendez, vous, par là, les philosophes, quand, par exemple, un religieux parle de voilà, littéralité? C'est-à-dire comme si on ne pouvait pas, justement, la recevoir telle qu'elle, hein, et qu'il fallait absolument qu'il y ait toujours de la surinterprétation, comme elle dit, voilà, et qu'on n'y échappe pas. Comme si on n'échappait pas à une espèce de béance qui est en fait en nous, et qui serait, finalement, je reprends le jeu de ce petit vide qui se déplace, et au fond, on est aussi nous-mêmes cette béance, et on ne peut pas la voir. On ne peut pas la voir, ni, on ne peut même pas la voir, enfin, difficilement de la voir chez nous, et encore plus chez le personnage. Voilà. Donc, c'est disons, vous n'avez jamais prononcé, certainement vous avez fait très attention, le terme de folie, entre guillemets. Donc, où est-ce que se situerait cette déraison, d'après vous? C'est un peu ça. Moi, il y a peut-être plusieurs choses que je demande. Mais voilà.
Moi, Alors, c'est vrai que c'est un film très curieusement, précisément parce qu'il nous place en permanence entre Chance et les autres personnages, nous place toujours sur les deux plans à la fois, nous fait suivre les deux parcours à la fois, et on peut vraiment suivre en parallèle, comme dans la scène comme dans la scène sexuelle avec Shirley MacLaine. On suit vraiment en parallèle le parcours de deux personnages qui ne se rencontrent pas. J'ai le sentiment que d'un côté, le film dénonce tous les discours métaphoriques, tous les discours interprétatifs, justement, au nom de la littéralité de ce personnage, qui ne cesse de nous rappeler que les images, les métaphores, etc. Bon, au final, il y a quand même quelqu'un qui est là, qui se déplace, et dont le comportement, sur lequel tous ces discours n'ont pas prise. Bon. Et on est tenté de suivre Chance de ce côté-là. En même temps, ce que je trouve assez beau, c'est que le film n'héroïse pas cette position. C'est-à-dire qu'en même temps, cette position est une position de pure angoisse, enfin, purement angoissante. Enfin, c'est très angoissant, l'idée d'avoir la télé allumée tout le temps. Ça vient peut-être de moi, mais moi je trouve ça effrayant. Parce qu'il y a un moment où ça vous dévore. Et du coup, tout se passe comme si cette espèce de, oui, vous le dites très bien, de béance appelait des interprétations, et des interprétations qui, du coup, la font oublier la présence, quoi. Enfin, moi, je pensais, à vrai dire, En voyant le film, je pensais beaucoup plus à Heidegger qu'à Deleuze, au sens où chez Heidegger, la question de l'être, being there, être là, non pas être tel ou tel, mais juste être là, la question de l'être, elle appelle ou elle se monnaie dans des interprétations de l'être, et toutes ces interprétations de l'être sont des formes d'oubli de l'être. Ce sont des manières pour l'être de se montrer en se cachant. C'est-à-dire qu'au fond, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est, mais on ne peut pas se tenir dans cette ouverture absolue d'être, donc on est amoureux. Alors on est amoureux, et être amoureux, c'est une sacrée manière d'être, mais c'est une manière d'être où le simple fait d'être disparaît tout aussi bien, enfin se montre et se cache en même temps. On sait qu'on est amoureux parce que on se sent vivre plus fort, comme on dit, mais en même temps, quand on est amoureux, on ne cesse, tu disais, à penser à ce qui va se passer après, ou à penser ce qui s'est passé avant, à ne pas y être, en fait. La scène où Shirley MacLaine arrive, alors qu'il prend son petit déjeuner, elle n'y est à aucun moment, absolument pas. Elle est prise dans l'interprétation amoureuse de cette présence. Donc, oui, je crois que c'est un film qui nous rappelle à la littéralité, et qui, en même temps, il me dit qu'on ne peut pas s'y tenir, enfin, qu'on ne peut pas se tenir à cet endroit-là. En tout cas, aucun n'y arrive dans le film.
Ce que je trouvais intéressant, c'est que vous avez dit à un moment que, quand Chance disait une phrase, par exemple, elle était tout de suite interprétée, enfin, que ça mettait en branle l'imagination. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'on dirait qu'à chaque fois qu'il dit quelque chose, il y a... J'ai pas l'impression qu'il y ait une mise en branle de l'imagination, parce que j'ai l'impression que le sens est là directement. Comme si chez l'autre personne, il y avait une évidence, en fait. Par exemple, quand il raccroche le téléphone pour faire du yoga, l'autre côté du téléphone, lui, il a tout de suite compris qu'il a accroché parce qu'il voulait pas dévoiler, par exemple, des secrets d'État, etc. Enfin, pour lui, c'est comme ça relève de l'évidence. Il est traité.
Ça m'a fait penser justement à ce que dit madame, ça m'a fait penser à la question mimétique de Gérard. Et du reste, dans le film, le rapport de Chance avec la télévision, aussi cette histoire du mimétique.
C'est vrai, c'est tout à fait vrai que le film fonctionne assez régulièrement en mettant la figure du miroir en avant. Et en même temps, il ne se passerait rien si cette interprétation était aussi absolument évidente qu'elle le semble. C'est-à-dire qu'au fond, Chance ne serait même pas remarqué si, en même temps qu'est déclenché le réflexe qui consiste à dire « il raccroche », bon, il raccroche, c'est qu'il ne veut pas me répondre, il y a une espèce de suspens du sens, d'hésitation... Alors qu'ils traduisent en disant qu'il a une certaine fraîcheur, on n'a jamais rencontré une personne comme lui, mais c'est très curieux parce que les deux choses se font en même temps ou à la fois. Vous avez raison.
Uniquement dans le mimétique, ouais. Avec la télévision, mais pas avec les autres. Non. Il n'est pas avec l'autre, avec un grand A.
Oui, c'est vrai.
Il n'est pas avec l'autre.
C'est peut-être ça qui fait c'est creuse c'est quelque chose.
Ouais. Et que l'autre peut, si on se... Ouais. L'autre peut...
Faire une remarque toute simple. Moi, je vous ai écouté très attentivement et j'ai souscrit à peu près à tout ce que vous avez dit. Et je me suis dit, alors bien entendu, on vous a présenté auparavant, et je me suis dit, si c'était pas lui, si c'était un comédien qu'on avait briefé en 5 secondes, lui dire, bah, écoute, il n'a pas pu venir, tu vas le remplacer, tu vas essayer de parler intelligemment. Je me demande si je n'aurais pas souscrit autant. Et à mon avis, le statut que je vous ai attribué, que vous écoutez et acquiescez, c'est peut-être c'est tout le film. C'est le statut qu'on donne à la personne qui parle. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas prendre au premier degré si on la suppute intelligente ou informée.
Oui, oui, vous avez raison. C'est ce qu'il y a de vertigineux, je trouve.
Non, excusez-moi. Je me permets, par rapport à ce qu'a dit madame précédemment sur la lecture psychanalytique. Avant ce film, il y a un livre qui est de Loser, de Jerzy Kosinski. Et ce qui m'interroge, c'est la passion qui a amené Peter Sellers à racheter le droit du livre, etc., à monter ce
ce film et l'intérêt. Alors, en parlant justement, donc, moi je me suis intéressée quand même à ce personnage de Peter Sellers qui semblait un peu déconnecté lui-même de la réalité, la passion qu'il a mis à la réalisation de ce film, et tout ce que vous avez dit, vous commencez à être pour moi des éléments de réponse finalement. Voilà. Je me suis mise, ça m'a mis à la place de Peter Sellers. Je vous ai écouté à cette place-là.
Oui. Vous parliez tout à l'heure de la situation paradoxale du spectateur qui assiste à une surinterprétation de la réalité et qui en même temps ne peut pas faire autrement que d'interpréter le film. Et moi, je me demande si dans ce film-là, au fond, on ne voit pas que on est pris au piège de l'interprétation et que finalement, percevoir la réalité, c'est produire une interprétation de la réalité. Et la réalité, ce n'est rien d'autre que l'ensemble de ces réalités. Et on voit bien finalement, le Chancy, il y a un petit peu autiste sur les bords, c'est-à-dire il a une incapacité à projeter des sentiments sur son monde. Dans la scène érotique, on voit aussi qu'il est incapable de penser, de percevoir la réalité de façon érotique, ce qui donne ces situations un peu burlesques. Et quand il regarde la télé, finalement, le moment où il regarde la télé, on voit ce que serait la réalité de façon non interprétée. La scène de yoga qui devient totalement absurde parce que elle n'a plus aucun, il n'y a plus aucun sens qui lui est donné. Donc on nous introduit un petit peu à cette perception un peu sèche de la réalité, on s'aperçoit de l'absurdité de la situation. Et si Chancy, c'est parce que son discours n'a aucun sous-entendu, que finalement son discours devient le réceptacle de toutes les délires d'interprétation possibles.
Ouais. Je crois que ça rejoint tout à fait ce que madame disait, c'est que c'est effectivement un autoportrait en acteur aussi. C'est-à-dire que c'est une espèce de d'art dramatique, c'est-à-dire que c'est une sorte de jeu à la fois à plat et puis en absorbement de ce qui se passe autour de lui, que Sellers a beaucoup pratiqué dans beaucoup d'autres films. Et une manière d'en jouer sans jamais y adhérer finalement, c'est toujours en décollage vis-à-vis de ça. Oui.
En fait, c'est le titre lui-même rassemble un petit peu ce que vous disiez sur l'espèce de projection systématique vers la télé. Parce qu'en fait, being there, c'est un paradoxe. Parce que being, c'est être en train d'être. Or, on devrait être being here. On peut dire to be there quand on ne parle pas de soi, quand on le dit de l'extérieur. Alors que being, c'est vraiment je parle de l'intérieur, de la personne qui est en train d'être. Et on ne peut pas être en train d'être ailleurs, sauf quand on est comme Chancy. C'est en fait c'est pour ça que la traduction, elle est très dommage.
Ah, le titre est encore plus beau que ce que je pensais. C'est pas being here, c'est being there. Et il y a toute la scène du are you there, etc. Où est-ce qu'il est ? Dans quel téléphone ? Est-ce que vous êtes là, etc.
Oui. En même temps, peut-être le changement de film en français est justement dû à l'impossibilité
de traduire.
D'obtenir une traduction satisfaisante.
Ah oui, non, c'est parce que là, c'est vraiment
entre le
présent accompli et le présent en train de s'accomplir.
Enfin, c'est vraiment un titre anglais.
C'est-à-dire que s'ils avaient traduit par étant là, c'eût été un film sur la guerre pour le coup.
Et je pense en fait, ça voudrait vraiment dire en étant là-bas.
En étant là-bas, oui.
Voilà.
En étant là-bas.
Là-bas.
Ouais.
Ouais,
ouais.
Ouais, mais alors. On pourrait pas dire que il y a quand même peut-être quelque chose comme une vérité éthique de cet être qui est là, il y a des temps un peu là-bas. C'est-à-dire, à la fois, moi, j'ai l'impression que c'est un écran, ce personnage, sur lequel tout le monde, en effet, projette ce qu'il a envie de projeter, c'est-à-dire, et qui entend à travers ses maigres phrases ce qu'il a envie d'entendre, et du coup, qui interprète. Alors, lui-même, il a l'air d'apprendre la réalité en imitant, par exemple, quand il apprend comment on embrasse, il imite quelques petits bouts de signifiants, de signification qu'il voit à la télé, mais d'ailleurs il zappe beaucoup, donc ça ne fait jamais une chaîne signifiante totale. Ça fait des petits bouts qui n'ont pas de sens et puis qu'il limite sans désir. Il n'est pas dans le désir amoureux, il n'est pas dans le désir vraiment de danser, bon, il limite juste des choses. Et donc c'est un écran avec quelques significations que lui limite. Et puis lui-même, il me semble qu'il est sans désir. Il n'y a pas vraiment de désir. Mais il est ce sur quoi se projette tout le monde, parce que tout le monde a du désir, a un désir politique, un désir amoureux, un désir... Et pense qu'il détient quelque chose comme une vérité. Et en même temps, il apaise tout le monde. Donc c'est comme si, au fond, il y avait quand même l'idée que cet être-là, qui est peut-être un peu improbable, c'est quand même celui sur lequel tout le monde projette l'idée qu'il y a une vérité. Enfin, dès qu'on est dans le désir et dans le vouloir dire quelque chose, c'est qu'on n'a pas la vérité, mais celui qui dit juste ce qu'il dit, ou qui... et bien celui-là, on le dote quand même d'une vérité, puis même d'une puissance, il a l'air d'apaiser les gens. Il devient l'objet du désir, il devient celui qui calme et tout. Donc il a quelque chose. Alors, est-ce que ça voudrait dire que la vérité, elle est là, qu'elle est dans ce fait de, finalement, ne dire que ce qu'on dit, ou l'absence d'un désir, espèce de calme plat, où on est là. Alors, vu le titre, ce ne serait pas tout à fait ça, parce que s'il est là sans jamais être là, mais d'une certaine manière, j'ai l'impression que quand même, il y aurait cette idée qu'on s'en sort lorsqu'on n'est pas toujours dans la projection du désir, de la relation, mais qu'on s'oppose là, et puis que ce que lui, au fond, il a l'air d'être paisible et il apaise.
Oui, enfin, moi j'ai presque envie de dire que c'est moins une condition pour lui que pour les autres. C'est-à-dire que ce sont les autres qui ont besoin de cette... C'est pour ça que j'ai essayé de dire un peu maladroitement que ça semblait être un film religieux. C'est-à-dire que les autres ont besoin de se dire qu'il y a autre chose que le jeu des désirs, que le jeu, etc., et que cette autre chose, c'est de la vérité, et que d'ailleurs, que c'est par là où le film rejoint le politique, et rejoint certaines traditions du cinéma politique, démocratique, progressiste américain. C'est-à-dire que cette vérité, c'est aussi ce qui fait tenir la maison, parce qu'au fond, la seule chose dont lui a envie, c'est que la maison reste ouverte, et c'est ce qui fait tenir les saisons du pays. Donc, il joue le rôle du pivot à cet endroit-là, mais lui étant ailleurs, c'est ça qui est très curieux. C'est qu'on ne sait même pas s'il y tient tant que ça.
C'est-à-dire qu'il joue le rôle du pivot et en même temps, finalement, nous autres qui sommes spectateurs de l'histoire, on s'aperçoit que finalement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le pivot, il n'existe pas.
Que le pivot n'existe pas.
Est-ce que c'est sûr ça ? Parce que est-ce qu'on peut dire vraiment que la réalité, c'est que l'ensemble des interprétations ? Ou est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même quelque chose ? Il est là. Il a l'air très bien, il est son désir, il est content d'être là où il est, si jamais il a à manger, la maison est ouverte. Mais c'est pour ça que, est-ce que là, il n'y a pas quand même quelque chose ? Alors après, peut-être que c'est le Christ.
C'est une illusion.
Ben, pourquoi c'est une illusion, Lise, à notre rêve ?
Ce n'est pas montré comme une simple illusion.
Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas un fantasme des autres.
La réalité, mais ça, c'est depuis la minute. Enfin, je veux dire, ça fait penser aussi à ce moment-là, en général. En association, moi, ça fait penser à... En littérature, on a est-ce que c'est la réalité, est-ce que c'est le rêve, est-ce que c'est l'illusion dans laquelle on vit ? Je ne sais pas.
Alors, je prends des tours.
Oui, peut-être sur le côté, à la fois le côté apaisant de Chance et l'idée d'une réalité qui pourrait se passer dans l'interprétation. Enfin, ce film, je l'ai vu et ressenti comme un autre film que j'avais vu, qui est un film, il me semble, japonais ou asiatique, qui s'appelle The Taste of Tea, qui est assez absurde, ou aussi très lent, avec des longs plans sur des paysages, etc., où au final, on arrive, il n'y a pas de sens qui semble se dégager, où c'est finalement très apaisant parfois de ne pas chercher de sens, de ne pas...
C'est vrai. Alors, une question là-bas.
Petite intervention, je ne pense pas que ce soit dans l'illusion, que ce personnage soit absurde. Il a un impact. D'ailleurs, les gens, certaines personnes qui l'approchent, ne peuvent pas s'empêcher de lui dire. La femme, elle lui dit, tu m'as, je me sens rassurée à côté de toi. Et l'homme qui va mourir dit, depuis que je l'ai rencontré, Chancy, j'ai plus peur de la mort. C'est important, c'est fort, ça, quand même. Et on sent qu'il va mourir tranquille.
Quand je parlais d'illusion, c'était pas de lui, c'était...
D'accord. Donc moi, j'ai ce personnage, il a trouvé son lien fort, c'est la terre. Il veut toujours être jardinier. Quand il arrive, je parle du maître de jardinier. Je veux dire, c'est quelque chose de solide. Hein, il a ce rapport à la nature que tous les autres ont perdu. Enfin, bon, là, je m'écarte un peu du sujet, peut-être. Mais lui, il a ça. Et je trouve que ce film, pour ça, est effectivement, bon, exprime des valeurs fondamentales.
Mais qu'est-ce qu'on fait de la télé?
Là, par contre, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur une espèce de sérénité comme ça. C'est en philo des sciences, on dit que quand on propère quelque chose qui ne peut pas être contredit, ça n'a aucune consistance. Et en fait, là, Chanty, enfin, moi, il me pose surtout devant le truc de ben oui, Chanty ne dit que des choses vraies. Le temps passe. Oui. J'ai faim. Voilà. Et en fait, la réduction dont tu parles, qui est hyper apaisante comme ça, c'est aussi parce qu'il n'y a pas d'interstice où peut y avoir débat. Et donc, il est juste plein. Et en fait, nous, il nous a, enfin, ce que vous appelez absurdité ou irrationalité, en fait, c'est une hyper rationalité, c'est qu'il ne dépasse pas le niveau zéro de la description.
Il y a une petite faille là-dedans, mais je ne sais pas si en termes de traduction, vous avez l'air d'être anglociste. Il est à l'ouest, donc en français, oui, il est à l'ouest. Je pense qu'en anglais, ça n'existe pas.
C'est
ça existe en anglais ou pas?
L'expression, il est à l'ouest.
Oui. Pour dire, il est. Non, je ne pense pas que ça existe en anglais. Mais le point. Ça, je pense pas que ça existe en anglais, mais en tout cas, à ce moment-là, précisément, moi, je trouve qu'on voit bien qu'il n'incarne pas la vérité et qu'il ne dit pas des choses forcément vraies, entre guillemets, s'il y a une vérité. Quand il dit qu'il est à l'ouest, le lit, en fait, quand il dit qu'il est au nord,
non,
orienté au nord...
Lui, il dit juste « je préfère dormir au nord ». Je préfère dormir
oui, mais le lit n'est pas orienté au nord.
Donc, il peut quand même se trouver par rapport
au nord. C'est peut-être pas dans quel sens c'est le nord, puisqu'il est bien.
Je trouve
qu'à ce
point-là, moi, je
ne
comprends pas bien, en fait, sur cette
Moi, je m'intéresserais à discuter, c'est sur son instinct de vie, en fait. Mm-hmm. Parce qu'il le réclame, il est vu à la fin. Son histoire, que j'ai faim. Et je trouve aussi quand même, il le demande à tout le monde, et il dit volontiers qu'il a faim, qu'il a soif, qu'il a besoin de vie immédiate et naturelle. Et c'est comment il va devant les autres, il n'a pas peur. Il est dans la rue, il demande si on peut le nourrir. Et que lorsqu'on braque devant lui un couteau, son message n'a même pas essayé de zapper. Voilà, j'ai trouvé ça, c'est une image super. Il a essayé de zapper la réalité, moi. Et il n'a pas peur, il n'a aucune angoisse par rapport au couteau, parce que pour lui, c'est comme au cinéma. Il est déjà passé à la télé, devant l'écran, quand il s'est fait filmer par la caméra. Voilà. Il y a des choses comme ça, mais je crois qu'il a un profond instinct de vie. Et peut-être que c'est cet instinct de vie, quelque part, à travers son... de perdurer, parce qu'il faut bien qu'il se nourrisse, il demande à être nourri, il est très agréable pour arriver à ses fins, comme un bébé, quoi, qui charme, quoi, pour avoir son biberon, sa tétine, j'en sais rien. Ça donne aussi confiance, une espèce de... C'est ça, peut-être, qui, je sais pas, il y a quelque chose de comme ça, de son instinct de vie inné, on va dire, qui redonne la pêche aux autres, quoi.
C'est...
Hein, quelque chose qui est tendreur.
Ce que Foucault, on parlait de déraison tout à l'heure, c'est que ce que Foucault dit à propos de la déraison du neveu de Rameau. Le neveu a faim et il le dit. Le neveu a faim et il le dit. C'est au fond ça la marque de la déraison. L'immédiateté de l'instinct. L'immédiateté de l'instinct, en fait. L'immédiateté du besoin.
Pour moi, on est vraiment dans un monde de l'image. Et la force de Seller, c'est d'avoir su transcrire le livre dont parlait Madame, que je n'ai pas lu, et de le projeter à l'écran avec toute la force de l'image et tout ce jeu d'interprétation, les sens ou les mots qu'on peut mettre autour. Et pour moi, c'est assez proche de la contemplation. Finalement, c'est un contemplatif. Il regarde la télé, il regarde le monde qui l'entoure, le jeu des communautés, le jeu des... Et finalement, voilà, moi, je le regarde comme ça, ce bonhomme, où je me dis, il est dans un état végétatif. Mais végétatif dans le sens, c'est un jardinier, et voilà, il est là au milieu d'un monde, c'est un végétal. Et en fait, il renvoie l'image que chacun veut bien voir de lui-même. Il renvoie cette femme à son propre désir en lui disant, je te regarde. Finalement, c'est elle qui se fait plaisir toute seule. Mais en se regardant, et finalement, elle le remercie après en lui disant, je me redécouvre. Voilà. Elle a une image d'elle-même qu'elle n'avait sans doute pas vue sans se contempler dans le vide, enfin dans ce miroir qui tend aux autres.
Moi, je rebondis là-dessus sur cette question du miroir. Y compris pour remettre le film dans la question de la filiation avec le genre burlesque, qui est évidemment un des moteurs pour que Peter Sellers s'attache à ce point, à ce projet, même si encore une fois il ne l'a pas réalisé. Il y a des clins d'œil au burlesque partout, et notamment à cette grande figure de l'histoire burlesque qui est le gag du miroir brisé, qui consiste dans la grande tradition du cirque transposé à l'écran à faire en sorte que deux acteurs différents jouent face à face alors même que le miroir n'existe pas. Et tout le film est porteur de cette idée-là. C'est lui qui va jouer le rôle du miroir, effectivement, des désirs des autres, de façon à pouvoir systématiquement remplir la place manquante. Il va occuper cette place manquante et du coup satisfaire aux désirs de chacun et être simplement dans l'acte de le montrer, l'image que les autres voudraient qu'il renvoie. D'ailleurs, l'un des films qui va fonder la tradition burlesque de ce gag du miroir brisé, c'est « Sept ans de malheur » de Max Linder. Et « Sept ans de malheur » de Max Linder est un des films à l'origine de celui-là, très clairement. Dans la mesure où l'un des enjeux va être de reproduire ce qui se passe sur des écrans de cinéma, et c'est précisément en reproduisant ce qui se passe sur des écrans de cinéma qu'on découvre comment embrasser une femme, avec un tout dernier gag à la toute fin, qui est que sur l'écran de cinéma, il y a une ellipse, et que sur l'écran de cinéma, on voit apparaître une dizaine d'enfants. Et que du coup, Max regarde la femme qu'il vient d'embrasser à ses côtés, et là, il y a un mystère. Et le mystère, c'est évidemment celui de la reproduction, mais cette fois entendu au sens sexuel. Or, cette question de la reproduction et de ses modalités, elle est évidemment très présente dans le film, puisque c'est précisément ça qu'il ne peut pas faire, lui non plus, cette reproduction de l'ordre sexuel, alors même qu'il passe son temps à reproduire. Et contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, la reproduction n'est pas seulement vraie dans le rapport aux médias qu'est la télévision, il le fait sans cesse de reproduire. C'est d'ailleurs pour ça qu'il peut appeler le président américain par son surnom plutôt que par son titre. C'est pour ça qu'il peut tapoter les mains à l'identique de ce que les amis de 40 ans font ensemble. Et son seul mode d'être, c'est effectivement le mimétisme dans un rapport à l'apprentissage et à la découverte de l'autre qui est absolument celui d'un enfant. Le rapport à l'histoire du genre burlesque, il naît aussi de ce rapport à l'enfant qu'il va être jusqu'à la fin et qui peut se permettre effectivement une espèce d'identité permanente à soi. D'où cette idée du reflet permanent. On notera d'ailleurs que ce qui crée un accident, c'est le fait qu'il se regarde dans une télévision, parenthèse, jeu de miroir magnifique qui consiste à faire que dès qu'il sort, il est confronté à des figures d'altérité, effectivement des tournements de 1001-17 de l'espace, des clochards, etc. Sauf que ce qu'il voit en réalité dans le réel, c'est une télé, donc c'est-à-dire exactement la même chose que chez soi, sauf que cette télé dysfonctionne puisque la caméra reproduit ses mouvements à l'envers. Et donc là, il n'y a plus de mimétisme total, et s'il s'éloigne pour regarder comment ça fonctionne, c'est précisément parce que quand il lève le bras droit, bah, il y a du gauche en face, alors que lui, il était dans le rapport à la télévision, dans un rapport de mimétisme total, et que là, il y a quelque chose dans l'inversion qu'il ne comprend plus, qu'il ne saisit plus, qu'il ne renvoie plus à ce miroir tel qu'il l'éprouvait dans son appartement. Ce rapport au mimétisme-là travaille d'ailleurs l'ensemble du film de manière absolument sidérante et obsessionnelle, puisque dès lors qu'il va vraiment vers un ailleurs, il va retrouver évidemment la structure de l'espace symétrique de celle qu'il a connue chez lui, c'est-à-dire qu'il y a là aussi un jardin et qu'il y a là aussi un vieux au dernier étage, c'est-à-dire sur le point de mourir. Reprendre la métaphore telle qu'elle est interprétée. Voilà. Donc il y a une espèce d'impossibilité pour lui de l'altérité et d'un ailleurs qui du coup nous condamne nous aussi en tant que spectateurs. L'un des éléments purement cinématographiques de ce film réalisé par quelqu'un qu'on n'identifie pas immédiatement comme un auteur, même si quelqu'un comme Dominique Moll, venu dans cette salle cet après-midi, considère que c'est un des très grands auteurs méconnus du cinéma. En général, il y a vraiment des contempteurs de Al-Hajmi. Parenthèse, Judd Apatow, voilà, si vous avez vu 40 ans toujours puceau, c'est évidemment très très nettement nourri de la vision de ce film-là. Pourquoi je n'aurais pas dû faire de digression sur Judd Apatow, ça je le savais.
Sur le miroir au départ.
Oui, ouais, non, si tu me ramènes au point de départ, c'est mort. Qu'est-ce que je disais juste avant Judd Apatow?
Ah, Judd Apatow.
Bon, je vais revenir aux gens pour là, parce que ça va permettre de rebifurquer. Non, parce que c'est une des manières d'interpréter la fin. Effectivement, c'est de l'ordre du miracle, et du coup, ça pose la question d'une lecture religieuse du film. C'est aussi, mine de rien, un autre clin d'œil cinéphilique, il y en a vraiment plein. Il est d'ailleurs dédoublé pour moi. D'abord parce que il y a des signes de la perception, et on sait que Peter Sellers l'adorait, d'une connaissance du cinéma burlesque français via Tati et via Pierre Etex, qu'on redécouvre cette année. Or, il y a par exemple le gag de la statue qui tend le bras vers l'extérieur et qui semble le chasser, qui est un prélèvement et un hommage à Yo-Yo. Et il se trouve que le dernier plan de Yo-Yo, c'est le personnage qui surmonte un éléphant et qui s'enfonce dans l'eau d'une fontaine et qui disparaît. Tout à coup, il y a un vrai effet miroir, là aussi, à faire en sorte que le personnage s'enfonce dans la perspective de l'écran, mais précisément ne disparaisse pas, en court-circuitant un autre gag du genre burlesque, qui est dans le caméraman, où Keaton va essayer de nager, marcher, vouloir sauter dans l'eau, sauf que, précisément, il ne le voit pas, il ne le sait pas, mais ça n'est pas encore l'eau, il y a une bordure, et du coup, il a la prétention de nager, mais ne peut pas le faire, alors qu'évidemment, dès qu'il va essayer de revenir au même endroit, il se trompera d'un mètre et du coup tombera dans le trou dans lequel il émerge là son parapente. Donc là, c'est aussi évidemment un rapport à la maîtrise du monde, à la stabilité du monde qui est mise en exergue et qui renvoie à cette grande figure burlesque, là pour le coup, pour faire le lien dans les différentes références utilisées, qui est celle de l'intrus. La situation de départ, c'est quand même un type qui va être transporté dans un espace. Et là, pour le coup, avec un jeu sur la métaphore au sens étymologique, c'est vraiment la question du transport dans un univers où il n'a de toute évidence pas sa place, mais où tous les autres vont finir par lui en assigner une et lui donner du sens à son corps défendant. Et évidemment, enfin, cette question de l'intrus est la question décisive du genre burlesque, quelle qu'elle soit, et notamment dans la partie, et là, pour prolonger la remarque de tout à l'heure, pour moi, ce n'est pas vraiment une extension d'une scène précise ou d'un gag précis de la partie. C'est une espèce de miroir brisé du film La Partie, qui est quand même le plus grand film avec Peter Sellers, même s'il en a fait quelques-uns qui sont absolument géniaux. Il y a une espèce de décalque de gags précis de La Partie. Par exemple, quand il fait semblant, en tout cas aux yeux des autres, de parler russe, on est très proche d'une scène où il joue sur des effets de synchronisation de la fameuse blague sur le canapé, où il se met à rire quand les autres sont effondrés sur le vol de la montre, parenthèse, qui est question de la montre, de l'heure étant un des éléments récurrents de ce film-là, la Rolex dont la pub passe à la télé, en regard là aussi le type, son incapacité à lui à lire l'heure, qui serait une espèce de référent temporel absolu qui permettrait d'avoir un ancrage extérieur, etc. Et en fait, plein des éléments de ce film-là viennent d'inventions qui partent d'une sorte de matrice qui serait la partie. Le plus évident, c'est l'espèce de testament dicté, où tout à coup le nom du personnage apparaît sur le testament alors qu'on imagine qu'il ne devrait pas y figurer, et que la machine, c'est un plan sublime par ailleurs, la machine se met à imprimer tout ce qu'il dit dans une conversation privée, et là on est exactement au point de départ de la partie, où on inscrit le nom de Bakshi sur un papier en pensant que c'est une liste noire et qu'on le raye définitivement du métier, avant de découvrir que c'est la liste des invités de la fameuse partie, dans la propriété qu'il va évidemment ravager. Voilà. Donc il y a une espèce de jeu de décalage qui permet de rejouer le genre burlesque avec une figure générale qui serait l'espèce d'inventer ce qu'on appelle dans le burlesque le slow burn, c'est-à-dire une espèce d'effet de décomposition générale, mais qui là n'est pas valable dans le traitement d'un gag particulier, mais dans le traitement même de la narration. Comme si la narration, et c'est aussi en ça qu'elle est particulièrement forte, était une espèce d'incarner le refus d'avancer. Ce qui est sidérant, c'est qu'il n'y a pas de scénarisation au sens absolument classique. Il y a un seul registre de gag pendant le film entier. C'est-à-dire, il n'y c'est-à-dire ce jeu sur la littéralité et la métaphore. C'est filé pendant le film entier, c'est quand même dément de faire un film uniquement sur cette idée-là et sur les interprétations suscitées par la case vide, ce qui est effectivement une très belle idée. Et en fait, ce jeu-là, qui consiste à refuser au spectateur la scénarisation attendue et donc à être dans l'immédiat, dans l'ici et maintenant constamment, est aussi une vraie question de cinéma, puisque évidemment la caractéristique de ce personnage, c'est qu'il n'a pas de hors-champ. Voilà, on peut vraiment en parler en ces termes-là aussi. Il n'a pas de hors-champ. L'obsession des personnages sur l'écran, c'est qu'ils en cherchent un. Ils cherchent un passé, ils cherchent à savoir ce qui a pu se passer dans l'espace d'à côté. Or, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est-à-dire que dès qu'il est en dehors de l'ici et maintenant, le personnage n'existe plus. Et évidemment, c'est notre investigation de spectateur de cinéma qui est interrogée, puisque nous sommes nous-mêmes sans cesse en désir d'en connaître davantage sur les personnages et de présupposer qu'un certain nombre d'éléments antérieurs vont nous permettre de comprendre davantage le déroulement de l'histoire.
Oui, en fait, c'était juste. Alors, c'est toujours pas sur la télé, je suis obligée de le dire, à votre grand regret. Et en fait, c'est juste une alternative à l'interprétation que vous avez donnée de la dernière scène. Parce qu'en fait, je crois que le personnage, il est vraiment caractérisé par son incapacité/slash non-volonté de participer au monde des autres. Et en fait, apparemment, il ne participe pas non plus à l'eau. Ça veut dire il ne fait même pas fusion avec les éléments. C'est peut-être juste, sans voir quelque chose de messianique, c'est peut-être juste, il ne se mouille pas.
Par exemple, on n'a pas cité pour moi les plus belles scènes, qui sont celles de l'ascenseur. Génial. D'abord, pour ce gag extraordinaire en termes d'écriture comique, qui est le groom qui se met à se marrer,
ah oui.
Alors qu'il ne s'est rien passé, voilà. En présupposant que ce qu'il allait dire allait être drôle. C'est quand même une espèce de point absolu d'écriture du burlesque. C'est une espèce de grande leçon traditionnelle où tous les grands burlesques ont essayé à un moment de faire rire en ne faisant rien. Bah là, on a une espèce d'illustration. Voilà. C'est possible puisqu'on suppose que ce qui a eu lieu avant était tellement décalé que ce qui pourrait surgir serait nécessairement hilarant. Mais cela dit, la scène qui a eu lieu avant, où il y a une espèce de, là pour le coup, triple lecture sur de quoi parle-t-on ? Est-ce qu'on parle du fauteuil roulant ? Est-ce qu'on parle de l'ascenseur lui-même ? Ou est-ce qu'on parle de la maison ou du château ? Elle est extraordinaire, mais vraiment prodigieuse, sur précisément quel est le sens de la lecture, avec presque une illustration, pour le coup, littérale, sur une espèce de sens qui serait comme ça articulé verticalement. Il y a des sens différents et l'ascenseur permet d'accéder à un sens plus ou moins bas de plafond, littéral, ou au contraire élevé dans la métaphore générale.
J'avais juste une remarque sur la fin, en fait. J'ai l'impression qu'en fait, il joue avec le zapping, puisqu'il marche, on a l'impression qu'il va aller quelque part, on attend qu'il... Et pile à ce moment-là, il y a un brouillage et ça bouge. Et on tombe tout de suite dans le générique. Hein, et à la fin, il y a comme des fonds de télévision. Enfin, c'est un brouillage. Et donc, c'est un peu comme si on nous disait, vous avez vu un bon film, là, vous changez avant la fin. Enfin, vous arrêtez. vous êtes vous-même piégé à votre propre jeu.
On zappe.
Et donc, moi, je pense qu'on ne saura jamais la fin de ce film.
Pourquoi vous avez changé de chaîne?
La fin, c'est pas l'élection de George Bush, non?
Je suis pas
bien sûr la critique politique.
Moi, j'imagine qu'il va revenir de toute façon.
Une case vide, alors.
Oui.
Éloge de la case vide.